Vous écoutez France Culture.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue donc dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Une émission préparée par Fanny Richer, Céline Leclerc, Sarah Petitbon, Mina Fézy, réalisée par Jean-Christophe Francis. À la prise de son ce soir, Thibaut Gernaez. Le problème pour une émission comme la nôtre, programmée en fin de journée, au lendemain d'un scrutin, c'est qu'il ne nous reste plus grand-chose de disponible au magasin des expressions toutes faites. Les rayons ont été dévalisés. Plus de vagues, plus de déferlantes, plus de séismes ni de naufrages, plus de tsunamis. Le Figaro en a fait son titre ce matin. Plus de raclées non plus, ni de défaites cinglantes. Ce soir, il ne reste plus rien pour qualifier, sans copier les petits copains, la victoire de la droite et la défaite de la gauche au second tour des municipales. Dès lors, tenons-nous-en aux chiffres. La gauche a perdu 151 villes de plus de 10 000 habitants. La droite en détient désormais 572, soit près des deux tiers. Le Front National remporte la mairie dans une dizaine de villes. Le pouvoir local a donc changé de camp. Au niveau national, on sent que ça vacille. Il n'est question depuis hier soir que du prochain remaniement. Et vous le savez désormais, Jean-Marc Ayrault a présenté cet après-midi sa démission à François Hollande. Le chef de l'État parlera ce soir à 20h pour nommer, dit-on, de sources concordantes, comme on peut le lire sur les dépêches AFP, l'actuel ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. Alors ce soir, une fois n'est pas coutume, ce n'est pas à une seule problématique, mais à plusieurs que nous allons nous confronter pour tenter de faire la synthèse de ces derniers jours et de ces dernières heures. À quoi ressemble la nouvelle géographie politique française? Comment la droite, la gauche, le gouvernement vont digérer cette nouvelle donne? Le bipartisme a-t-il vécu? Ou au contraire, sort-il renforcé de ce scrutin? Recomposition ou décomposition? C'est notre sujet du jour. Et pour discuter de cette actualité particulièrement mouvante, j'ai le plaisir de recevoir Martial Foucault. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur du CEVIPOF depuis quelques semaines seulement. Vous êtes par ailleurs professeur des universités en sciences politiques à Sciences Po Paris. Vous publierez en septembre prochain, c'est ce qui est prévu aux presses de Sciences Po, Ville de gauche, ville de droite. Vous avez bien fait de ne pas le publier maintenant parce que vous auriez dû remanier fortement votre livre. Pour discuter avec vous ce soir, Marika Mathieu, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste indépendante. Vous avez publié l'an dernier, c'était au mois de mai, aux éditions La Martinière, La droite forte année zéro, enquête sur les courants d'une droite sans chef. On est donc aujourd'hui, enfin désormais dans l'année plus un. On verra voilà, comment évoluer cette droite et quelle droite d'ailleurs a remporté hier les élections municipales. Nous sommes toujours en compagnie, il était déjà dans le journal, de Patrick Lafarge, politologue, spécialiste de la carte électorale. Je ne vous resalue pas, puisque vous étiez déjà là.
Salut à tous quand même.
Et de Frédéric Mettezo, le chef du service politique de la rédaction de France Culture. Allez, rebonsoir Frédéric.
Bonsoir à tous.
Alors partons sur cette actualité la plus brûlante avec l'annonce, il y a quelques minutes de cela seulement, c'est officiel, ça vient de Matignon, de la démission de Jean-Marc Ayrault et de son gouvernement. On sait que François Hollande va avoir une allocution télévisée ce soir à 20h, qu'il va annoncer le nom, non pas des nouveaux ministres, puisque ça ce sera au chef du gouvernement de le faire, mais le nom du nouveau Premier ministre. Sauf énorme surprise, puisque les sources paraissent plus que concordantes désormais, ce sera Manuel Valls qui sera désigné pour succéder à Jean-Marc Ayrault. Martial Foucault, allez, on va faire comme si ça devait effectivement avoir lieu, cette nomination de Manuel Valls. Est-ce qu'il faudrait y voir une lecture particulière des résultats du scrutin d'hier par le chef de l'État? Autrement dit, il aurait pris acte que c'est la droite qui a gagné et qu'il fallait donner un signe à l'électorat qui se situe le plus à droite au sein de son électorat?
C'est très compliqué de comprendre un peu ce qui se passe dans le cerveau du président de la République, parce qu'il nous a habitués à des surprises. Si véritablement Manuel Valls est nommé Premier ministre, je crois que, selon moi, il y a deux enseignements à tirer par rapport au scrutin municipal. Premièrement, c'est que l'ampleur de la défaite oblige immédiatement François Hollande à envoyer un signe. Est-ce que véritablement les Français souhaitent seulement s'arrêter à un remaniement? Je crois que ça serait l'erreur à commettre et le gouvernement actuel et François Hollande ne peuvent plus commettre trop d'erreurs.
Depuis hier, tout le monde dit qu'il faut changer de politique. Alors on entend ça à gauche, on entend ça à droite, on entend ça dans la majorité. Mais là,
on est face au véritable dilemme auquel est confronté François Hollande. C'est-à-dire à la fois changer une équipe, ça veut dire on a entendu un message, un vote sanction dont il y a une semaine, on n'osait pas prononcer le terme de vote sanction. On pensait que les élections municipales étaient des élections avec des enjeux locaux, c'est tout. Finalement, la réalité est toute différente. Et dilemme entre changer seulement une équipe et dilemme changer finalement le contenu de la politique qui, moi, selon moi, ma lecture que je fais de ce scrutin municipal, c'est avant tout un vote sanction avec une dimension économique très forte, voire même exclusivement économique. Donc, le choix des personnes en charge des dossiers économiques va être, selon moi, décisif dans les prochaines heures.
C'est un message adressé à la droite, si on reste sur cette hypothèse d'une nomination de Manuel Valls, Marika Mathieu.
Écoutez, je pense que c'est un peu rapide pour imaginer que dès le lendemain de ce scrutin, François Hollande aurait décidé de s'adresser directement à cet électorat de droite qui a l'air d'avoir de toute manière autre chose à faire que de voter ou de s'intéresser à proprement parler à la reconstitution d'un gouvernement sous éventuellement Manuel Valls ou sous un autre. Je pense que le message...
Sauf si c'est pas à l'électorat que ça s'adresse, mais aussi peut-être une façon de neutraliser cette droite qui a effectivement engrangé une victoire assez importante.
Moi, dans ce cas, si c'était la lecture à en faire, je la trouverais un peu rapide et je pense que on n'est pas exactement. Enfin, la priorité ne devrait pas être de répondre à la droite, mais de répondre à la gauche. Et que la question qui se pose est moins toujours d'être dans la défense par rapport à la droite que d'affirmer ce que pourrait être un gouvernement de gauche. Donc on verra effectivement quel est le signe et la tendance donnée par François Hollande en la matière. Mais je pense qu'il faudrait avant tout penser à ce qu'en pensera la gauche.
Alors imaginons, je reste toujours dans les hypothèses, après on essaiera vraiment de faire de l'analyse du scrutin d'hier parce qu'on ne va pas passer toute l'émission avec des si. Mais imaginons que ce soit une réponse apportée à la gauche. Reste encore un instant avec vous, Marika Mathieu. Répondre à la gauche, à un électorat qui s'est moins mobilisé qu'auparavant, sans doute justement parce qu'il n'y avait pas d'adhésion par rapport à la politique du gouvernement, et y répondre en nommant Manuel Valls, qui est vu comme le plus droitier des socialistes. C'est une réponse qui ressemble à un petit doigt d'honneur, non ?
Oui, ben justement, si tel est le cas, on verra comment il est interprété, parce que ça peut vraiment provoquer quelque chose de douloureux dans ce qu'on aurait pu et ce qu'on doit pouvoir lire aussi dans le scrutin, et qui se lit essentiellement dans l'abstention. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a un vote qui s'est exprimé, une abstention qui s'est démarquée, mais qui n'est pas nouvelle, qui est désormais ancrée dans l'électorat de la gauche. Et je ne pense pas, en tout cas, à la lecture de ce qu'on a là, 24 heures après le scrutin, encore une fois, que le signe était à donner vers une droitisation du discours, enfin, du discours du gouvernement. Je pense qu'il y a vraiment un signal qui, à la base, a besoin d'être entendu dans le vote populaire de gauche, qui ne s'est pas mobilisé, qui n'était pas là. Et je pose la question de savoir si Manuel Valls répond à cette attente et à cette démobilisation.
Patrick Lafarge.
Hypothèse Manuel Valls. À qui ça ne va pas faire plaisir? Au vert. On a vu qu'il sortait déjà.
Parce qu'a priori, Cécile Duflo ne reste pas au gouvernement. C'est quasi fait.
Au front de gauche.
Qui n'y est pas.
Oui, mais on va avoir pour les européennes Mélenchon qui utilise Valls comme cible particulière. Le Parti communiste non plus. Bon. C'est quoi le profil de Valls? Il a été derrière Jospin comme communicant, relation presse. Il est connu pour être proche d'une grande société de communication. Il a été proche d'RSCG, pour ne pas la nommer. Il a été proche et il a soutenu DSK. C'est quoi le problème de Hollande à date d'aujourd'hui? C'est, entre guillemets, le papier d'huissier déposé par la commission de Bruxelles sur son bureau. C'est-à-dire que vous êtes prié de rapidement de mettre aux normes l'économie française. Donc, on fait une communication rapide pour toucher les esprits, parce que là, tous les militants socialistes et les élus qui restent sont traumatisés par les résultats d'hier soir.
Donc ce que vous dites, c'est qu'on fait une communication rapide en nommant un communicant, le meilleur communicant, c'est ça?
Incontestablement, il est social-démocrate, il est, entre guillemets, respecté à gauche en partie, Ça, c'est le pari politique qu'il prend, parce qu'il se coupe des Verts et d'une partie de la gauche, mais aussi en partie à droite. Il est communicant, on l'a vu dans toutes ses postures, ses visites, etc. etc. Il est jeune et dynamique, il a soutenu des SK. On est sur la logique du virage social-libéral, social-démocrate. Et en plus, il est accommodant avec Bruxelles. Je serais très étonné que Mme Merkel joue aux fléchettes avec la photo de Manuel Valls. Elle connaît.
Finalement, François Hollande avait pris ce virage dans sa politique. Et là, il ne ferait qu'acter ce virage politique. Frédéric Mettezon peut aussi le voir comme ça.
Oui, le 31 décembre, pendant ses vœux, il annonce le pacte de responsabilité. Deux semaines plus tard, en conférence de presse, il assume le mot social-démocrate. Bah forcément, le troisième étage de la fusée, c'est Manuel Valls. Avec quand même, si cette nomination a lieu effectivement, une petite révolution psychologique pour François Hollande, parce qu'avec Valls, effectivement, il ne va pas chercher la synthèse. Il va plutôt chercher l'anti-synthèse, c'est-à-dire il va chercher celui qui braque, celui qui clive, mais au moins, tous les commentateurs et tous les amis de François Hollande lui disaient « tu dois réagir, vous devez faire quelque chose ». Là, il fait quelque chose, il prend une posture politique très nette, très forte, et Valls est d'autant moins la synthèse que Valls y fait 5%, 6% à la primaire socialiste en 2011.
Oui, c'est-à-dire, c'est le dernier.
Il va chercher le minoritaire.
C'est l'avant-dernier, puisque...
Il y avait Jean-Michel Baillet derrière.
Il y avait Baillet, mais sinon, voilà, en tout cas, au sein du Parti Socialiste, c'est celui qui a recueilli le moins de voix pour la primaire, donc... C'est aussi le risque de faire énormément de mécontents à gauche. Marika Mathieu, Martial Foucault.
Oui, non, mais en vous écoutant, je me disais, il y a un côté assez sacrificiel dans cette décision. Parce que être Premier ministre.
Il sacrifie Valls ou c'est Hollande qui s'auto-sacrifie
pour Manuel Valls, en acceptant cette décision. S'il est, encore une fois, il est nommé, je dirais qu'il va devoir conduire cette politique globale. Mais encore une fois, j'insiste, le pacte de responsabilité sera le premier rendez-vous pour Manuel Valls. Ça veut dire trouver une majorité de députés qui accepteront de ne pas trop détricoter le texte. Ça va être très compliqué quand on voit l'ampleur de la défaite.
Et qui accepteront de voter la confiance au gouvernement, ça, il peut y avoir un risque ou ça,
sur la confiance, je ne pense pas. En revanche, je crois que si les députés donnent un gage sur la confiance, ils attendront en retour une monnaie d'échange sur la nature des textes qui seront présentés, pour lesquels il faut quand même rappeler qu'il y a un troisième, voire quatrième tour. Il y a quand même des élections sénatoriales à l'automne et des élections régionales. Et ce sont ces mêmes députés qui, aujourd'hui, sont très embarrassés parce que globalement, ils n'ont pas le sentiment que les maires de gauche étaient de mauvais maires, mais ils ont pris effectivement cette vague nationale d'impopularité de l'exécutif et des résultats qui ne sont pas au rendez-vous.
Moi, je reprends l'idée de notre ami du Sevipov tout à l'heure. C'est-à-dire que fondamentalement, Valls, c'est entre guillemets la tête de gondole, et que fondamentalement, il est possible que Hollande arrive à quelque chose. C'est vrai qu'il n'a pas exercé 100% de réussite jusqu'à présent, dans la nomination des ministres qui sont derrière. Et on pourrait peut-être avoir un gouvernement resserré avec des noms politiques qui soient... Ça serait ça l'événement, ça correspondrait à ce qu'attend Bruxelles, ça correspondrait à ce qu'attendent les Français, c'est-à-dire l'efficacité économique, parce que c'est là où ça a tapé, c'est là où les nouvelles sont tombées la semaine dernière, le chômage et la fine plaisanterie de « ça va baisser pendant tout le mois de décembre et le mois de novembre ». Et c'est cet état de ce résultat négatif qui pose problème et qui a été véritablement l'accélérateur de la défaite.
Alors, qui seront les ministres d'un hypothétique gouvernement de Manuel Valls? On ne va peut-être pas aller aussi loin ce soir. Allez, on va quand même se réintéresser, parce que ça a moins de 24 heures, ces élections municipales, même si évidemment la démission de Jean-Marc Ayrault est la conséquence directe de cette forte défaite de la gauche. Mais s'il y a défaite de la gauche, c'est bien parce qu'il y a victoire de la droite, Marika Mathieu. Victoire assez nette, on a parlé du nombre de villes. En termes de conseillers municipaux, il y a un petit calcul qui a été fait par le journal Le Monde, qui en a trouvé 96 000 conseillers municipaux classés à droite contre 67 000 à gauche. C'est donc une victoire de la droite, mais est-ce qu'on sait quelle droite a gagné? Est-ce qu'il y a une ligne idéologique au sein de la droite qui vous paraît s'être imposée à la faveur de ces élections municipales?
Alors, pas du tout. Et on va pouvoir reprendre, et je pense qu'on est quand même dans la même question qui se pose. Comment analyser la nomination éventuelle de Manuel Valls comme ce scrutin? C'est la question de quel est le fond politique qui s'exprime ? Quel est au fond le niveau de densité de l'expression politique qui s'est menée aussi bien au niveau de la campagne municipale et qui va évidemment faire battre aussi bien notre cœur pendant les prochaines semaines jusqu'aux européennes et encore une fois les scrutins sont nombreux à la suite. Y a-t-il une ligne politique au niveau de l'UMP ? S'il devait y en avoir une, peut-être qu'ils auraient remporté un seul des scrutins qui ont eu lieu localement depuis 2004. Il n'y a pas une seule victoire de l'UMP là-dessus. C'est la première victoire de l'UMP sur le terrain local. C'est la première fois que s'ouvre la possibilité d'avoir, dans cette nouvelle famille politique, parce que finalement elle n'est pas si vieille que ça, d'avoir un ancrage territorial et de voir effectivement ce que cet ancrage va lui faire faire. Parce que qu'est-ce qui se passe justement depuis la défaite de Nicolas Sarkozy ? C'est l'absence de colonne vertébrale, c'est l'absence de ligne. Aucune direction n'est donnée aussi bien sur le plan national que local.
Mais vous dites-vous, donc, il n'y avait pas de ligne politique parce qu'il n'y avait pas d'élus, suffisamment d'élus et suffisamment d'ancrage au niveau des élus ?
Je pense que c'était une des lectures à faire, notamment du congrès de l'UMP en novembre 2012, qui était cette démonstration du reste d'élus qui reste du parti perdu, absorbé par une lecture d'opinion, de sondage, complètement dispersés dans leur travail politique par cette lecture, du coup, d'ailleurs, orientée, et qui était celle, et ça pourrait à nouveau interroger la ligne Buisson, puisqu'en fait, c'était juste la ligne politique dictée par des sondages, et ça n'est finalement que ça, et qui se retrouvait effectivement à se dire, mais comment on fait ? Il n'y a pas d'ancrage, on n'a pas, tout au long du quinquennat de Nicolas Sarkozy, qu'est-ce qui a été perdu ? L'ancrage, le terrain, pas de terrain. Et on se retrouve effectivement en novembre avec un congrès qui a donné une majorité à ce qui est la droite forte, qui sont avant tout des non-élus, des gens qui ne sont pas élus, qui n'avaient pas cette légitimité-là, donc peut-être qu'il est à souhaiter pour l'UMP qu'elle fasse de cette victoire l'occasion de retrouver une légitimité sur le terrain et une inspiration politique.
Frédéric, mettez-vous.
Oui, un commentaire en forme de question à Marika Mathieu qui a travaillé sur ce phénomène de la droite forte. Est-ce qu'il n'y a pas une certitude ce matin, c'est que précisément ce courant de la droite forte, de la droite décomplexée, n'est pas le perdant d'hier. J'ai repris la liste des villes à bascule, Toulouse, Amiens, Caen, Laval, Bobigny, Pau, Bayonne, Maubeuge. Elles basculent du fait de têtes de liste centristes, UDI ou Modem. Encore deux autres exemples, les deux villes où il y a eu fusion UMP Front National en Moselle, dans une ville qui s'appelle L'Hôpital, et à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne, et bien dans ces villes, c'est la gauche qui a fini par gagner. Troisième exemple, 14 villes passent au Front National, pour l'essentiel dans le grand quart sud-est en Provence, là où la droite se veut populaire, forte et décomplexée, bah là, Front National a poussé.
C'est pas 14 qui passent, je crois que c'est 11 et plus
11 plus 3 de Ligue du Sud. Voilà, c'est pour ça qu'on va parler de ville d'extrême droite. Passer à l'extrême droite. En tout cas, finalement, la droite décomplexée ne fait pas digue au Front National.
Mais Marika Mathieu.
Ne fait toujours pas digue. Ça n'a jamais fait digue. Ça n'a fait... Enfin, si on regarde...
Continue à ne pas faire digue.
Mais continue à ne pas faire digue et continue, qui plus est, si on regarde le résultat, le FN, à un moment donné, c'est, on peut dire la victoire dans les faits de l'UMP, mais plus que jamais, pourquoi cette difficulté à reconstruire sa ligne politique ? Elle est face à un mur. Le FN est ancré dans le paysage politique, il fait partie de l'échiquier et il n'est pas aujourd'hui à considérer qu'on puisse l'absorber ou le faire disparaître. La seule, effectivement, il y a le trompe-l'œil, c'est le sarkozisme de 2007 qui a réussi à faire fondre le FN, mais aujourd'hui, on est au contraire dans la matérialisation même locale du FN qui est là-dessus. Il est en face, c'est un mur, et la tactique de l'UMP qui était son rapprochement et la frontisation opérée sous les conseils de Patrick Buisson et qui a encore une fois influencé un nombre conséquent d'élus, ne fonctionne pas et au contraire, aujourd'hui, ouvre une voie nouvelle, renouvelle la voie pour le FN.
Martial Foucault, est-ce qu'au lendemain des municipales, on peut parler d'un virage à droite en France ? J'ai relu certains de vos écrits lorsque vous étiez à l'Université de Montréal, c'était en mars 2012, où vous annonciez un virage à gauche, donc la victoire de François Hollande. Est-ce qu'avec ces municipales, c'est l'inverse qui se passe ? Ou bien est-ce qu'on est exclusivement, selon vous, dans un vote sanction qui ne traduirait pas à des choix liés à l'idéologie portée par les candidats qui ont été élus ?
Je crois que si on reprend les déclarations de Jean-François Copé au mois de janvier-février, lorsqu'il considérait que le scrutin serait un succès si la droite arrivait à l'emporter dans plus de 50% des villes de plus de 9000 habitants, on considérait que c'était un objectif inatteignable. Et là, alors pour les villes de plus de 9000 habitants, on est à 56%, et pour les villes de moins de 9000 habitants, on est à 62%. Donc, il y a véritablement eu un changement. Alors, la question, c'est est-ce que ce changement ouvre une voie nouvelle pour la droite ? Est-ce que c'est une véritable victoire de la droite ? Je crois que cette victoire est totalement inespérée. Il n'y avait pas une préparation sur le plan local des élus. D'ailleurs, on voyait un certain nombre de candidats sur des listes dans des villes assez grandes, plus de 30 000 habitants, qui refusaient des visites des responsables politiques de l'UMP. On cherchait à dépolitiser ces scrutins. Et finalement, je crois qu'il y a eu une impréparation. Il ne faudrait pas penser que ce résultat à l'élection municipale prépare une nouvelle ère idéologique de la droite. Non, je crois que les choses sont campées au niveau national et absolument pas au niveau local.
Donc si on lit la carte de la nouvelle géographie électorale, Patrick Lafarge, est-ce qu'on peut se dire que... Enfin, est-ce qu'il faut éviter de se dire justement que certains bastions qui semblaient appartenir à la gauche sont aujourd'hui passés à droite ? Ou bien est-ce que c'est un peu trop tôt ? Et peut-être faut-il d'ailleurs attendre les élections européennes qui vont arriver très vite d'ici fin mai pour voir s'il y a confirmation d'une tendance un peu forte ou bien est-ce qu'on est là aussi toujours dans le vote sanction ou bien dans des configurations strictement locales. C'est toujours compliqué de manière d'analyser un scrutin.
Vous savez, les municipales, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, c'est la mère de toutes les élections. C'est tout, vous prenez le président de la République, ils sont tous passés par la mairie. Tulle, Paris, Château-Chinon, etc. Et De Gaulle, c'était par son frère, c'était Paris. Donc on est sur quelque chose qui le vivier, puisqu'on a quand même 36 000 communes, de tout ce qui va sortir dans la nouvelle génération d'élus. Il est évident que ça porte un coup à la gauche.
Donc on a le nouveau président de la République les élus d'hier.
On a des futurs députés, des futurs sénateurs, des futurs ministres. La réponse est oui. Pas nécessairement le futur président de la République. Donc ça porte un coup très grave au Parti Socialiste et avec tout ce qu'il y a derrière. Bon. Je reprends ce qui a été dit tout à l'heure, tout à fait judicieux. C'est pas un vote d'adhésion, c'est un vote fondamentalement de sanction du gouvernement et du président de la République, ce qui ne veut pas dire que vous avez une adhésion. La réalité des choses, puisque notre président de la République a été très longtemps premier secrétaire d'un parti, et qui connaît les fédérations par cœur, et qui connaît les petits jeux à la Mitterrand, c'est qu'effectivement, le Front National présent, on n'a pas touché au moment des municipales, au pourcentage de 10% de suffrages exprimés pour être présent au deuxième tour. Donc ce qui était prévu, entre guillemets, c'était que la présence du Front National au deuxième tour amène la droite à exploser en deux entre ceux qui veulent s'allier avec le Front National pour arriver au pouvoir, ceux qui refusent, et donc une implosion, entre guillemets, au niveau de la droite. Sauf que vous avez un résumé parfait, la semaine dernière. La droite n'a pas fait une erreur. Quand quelqu'un a bougé du Front National, il a été tiré tout de suite par Copé. À gauche, ça a commencé la psychanalyse avec Jean Glavany, homme de très grande qualité, mais dont le discours ne devait pas être public, suivi par Emmanuelli, suivi par le maire sortant de la ville de Paris. Et donc on est parti dans une cacophonie extraordinaire. Attendez, on est en période de crise, les nouvelles sont mauvaises, les gens ont besoin d'être rassurés. Et derrière, dernier truc qu'on a déjà vu tout à l'heure, une direction du Parti Socialiste qui n'a pas fait son boulot, mais c'est fait pour ça qu'Harlem Désir était là. Et vous avez une multitude de cas où les conflits n'ont pas été gérés. Et on a des situations qui ont dégénéré, comme à Mantes-la-Ville, où le Front National, rappelons-le, a été élu avec des scores qui sont très faibles, mais parce qu'il y avait deux listes de gauche.
Martial Foucault et ensuite Marika Mathieu.
Oui, un petit point, parce qu'on a évoqué tout à l'heure, est-ce que ce succès de la droite a permis également de réduire la percée du Front National ? Est-ce qu'il y avait un effet digue, hein ? Vous avez évoqué ça. Lorsqu'on regarde les résultats du premier tour, un phénomène très intéressant, c'est que dans toutes les municipalités où le Front National progresse et fait des scores supérieurs à 10%, ça se fait au détriment de la droite. Et ça, je crois que c'est un phénomène qu'il va falloir étudier un peu plus en profondeur, parce qu'on a beaucoup parlé dans ces élections, évidemment, des triangulaires, quadrangulaires et du Front républicain. Alors, ça fait beaucoup d'éléments, mais on peut les synthétiser en essayant de comprendre pourquoi le Front républicain n'a pas toujours marché. Il ne faut pas oublier...
Il a marché dans certains cas, les plus connus.
Alors, oui, oui et non. C'est-à-dire
Brignol.
Il ne faut pas oublier que s'il y a Front républicain, ça veut dire que le candidat qui se retire, enfin, le parti qui se retire, n'a aucun conseiller municipal. Et quand on parlait de Front républicain pour des élections nationales, il n'y a pas un enjeu d'avoir au minimum un conseiller municipal. Donc, c'est deux choses de parler de Front républicain pour une élection local, avec un scrutin municipal et une élection nationale. Et tout dernier point, concernant les triangulaires, un phénomène très nouveau pour ces élections en 2014. Jusqu'à présent, on savait que lorsqu'il y avait une triangulaire, avec la présence d'un candidat de gauche, de droite et du Front National, c'est toujours la droite qui était pénalisée. Cette fois-ci, en 2014, au second tour, les choses sont légèrement différentes.
On l'a légèrement vu sur différentes. Les législatives partielles aussi.
Marie
ça a commencé à ce moment-là.
Oui, à Villeneuve-sur-Lot.
Oui. Oui, c'est vrai que ça donne envie de quand même de confronter ce qui peut atteindre aussi bien une lecture de gauche que de droite. On a quand même un phénomène qui revient toujours quand même à se demander quel est le contenu du Front républicain s'il doit avoir lieu. Quand vous dites qu'à un moment donné de plus en plus il choque aussi l'électorat que le Front républicain revienne à retirer un candidat qui du coup ne sera pas représenté au sein d'un conseil municipal, il faut en avouer que le sens est fort de dire on préfère ne rien avoir à dire et ne rien faire au sein d'une ville pour laquelle normalement le combat municipal est un combat qui en plus touche, qui doit avoir cette espèce d'incarnation et qui doit toucher à la sensibilité quotidienne des gens, enfin à la raison des gens au quotidien. Et quand on voit que la réponse du Parti Socialiste peut être de dire eh bien, nous retirons entièrement de ce jeu-là, nous vous laissons vous débattre pendant les prochaines années sans nous, c'est quand même aussi encore une énième marque de lâchage, enfin de cette sensation qui quand même habite l'électorat de gauche, d'être lâché par les institutions et même par ces notables qui s'en sont éloignés. Et la dépolitisation, et si on devait juste revenir sur ce que serait quand même qu'une nomination de Manuel Valls, c'est quand même étonnant aussi au regard de ce qu'ont été les succès des alliances ELV et Parti de gauche. C'est-à-dire qu'il y a quand même deux choses qui ont pu marquer le vote de gauche, c'était aussi la réussite de ces listes, notamment à Grenoble. Très intéressant au niveau de ce que ça a produit aussi dans l'activité, la participation citoyenne. Et qu'est-ce qui arriverait donc si Manuel Valls est bien nommé? Le départ des Verts et évidemment une absence de discussion avec le Parti de gauche.
Je retire de la discussion que nous avons depuis tout à l'heure une forme de confusion, non pas dans les propos évidemment que vous tenez, mais dans le paysage politique actuel. C'est-à-dire qu'on a l'impression que finalement on ne sait plus très bien comment se situe la gauche, pas encore très bien comment se situe la droite. Marine Le Pen, la semaine dernière, au lendemain du premier tour, on parlait essentiellement du Front National, disait le score du FN, c'est la preuve que le bipartisme en France s'est terminé et qu'on s'oriente vers alors au moins le tripartisme. Et je vois que Frédéric Mettezo et Martial Foucault font plutôt non de la tête, Frédéric.
En tout cas, bipartisme, tripartisme, on peut dans ce cas-là, pourquoi pas quadripartisme avec les Verts qui font un étiage de voix tout à fait correct. Ça, on peut aller loin.
Il y a toujours une gauche, il y a toujours une droite.
Il y a quelque chose qui n'a pas changé. Vous disiez, Hervé, qu'on manquait de formules, qu'on avait usé toutes les formules. Moi, je vais vous en proposer une. Il reste quand même la guillotine institutionnelle, c'est-à-dire qu'on a des institutions qui sont bipolaires. C'est qu'au final, dans les scrutins nationaux, on a un deuxième tour à deux à la présidentielle et on a dans la plupart des législatives, certes des triangulaires, mais dans la plupart, on a tout de même un scrutin à deux. Donc les institutions restent bipolaires. À partir de là, vous pouvez avoir deux gros blocs et puis derrière un troisième qui va essayer de s'imposer. À un moment, ils butent sur les institutions.
Sauf quand les élections sont la proportionnelle et ce sera le cas aux prochaines européennes.
Sur les européennes, mais ça, c'est pas les élections nationales.
Martial Foucault.
Oui, non, c'est vrai que quand on regarde la situation des modes de scrutin en France par rapport à d'autres pays habitués à des scrutins plutôt de type proportionnel, la question du bipartisme interpelle toujours les collègues étrangers. Ils se disent, mais vous avez en France sans doute l'un des politologues les plus éminents, connus à l'étranger, très peu connus en France, Maurice Duverger, qui a donné son nom à une loi, la loi Duverger, qui nous dit tout simplement, lorsqu'on a un système de scrutin proportionnel, ça doit faire émerger deux parti. Et en France, on a un mode de scrutin, un mode de scrutin majoritaire, et on a un paysage politique autour de deux forces politiques. Donc c'est un vrai casse-tête cette situation. Pour cette élection, je crois que pour les élections municipales, quelque chose qui me semble intéressant, je partage absolument pas l'idée selon laquelle on rentrerait sur la voie du tripartisme. Si on regarde le score du Front National, vous avez raison d'indiquer que oui, regardons le Front de gauche, regardons aussi le Centre, qui fait des scores là où les listes sont présentes, assez comparables à ce que fait le Front National.
Il y a une de vos collègues, Martial Foucault, que vous connaissez, j'imagine, la politologue Nona Meyer, qui considère que non, le bipartisme n'est pas terminé, qu'au contraire, le clivage droite-gauche ne cesse de s'accentuer, que la droitisation, il y a d'abord une droitisation de la droite et une droitisation également qui profite au Front National et que les clivages partisans sont finalement peut-être beaucoup plus nets aujourd'hui qu'il ne l'était il y a quelques années, Patrick Lafarge ?
On est en période de crise. La gauche a été marquée par la présence de François Mitterrand. Et de toute évidence, elle ne va pas encore totalement tuer son passage. Jospin est encore dans l'arrière du pouvoir. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé ici dans ce beau pays ? C'est qu'il y a eu un accident qui s'appelle DSK au niveau d'une affaire. Et donc, ce qui était prévu, c'était président de la République, Dominique Strauss-Kahn, Premier ministre, Martine Aubry, et c'est des gens compétents, et derrière, les choses devaient rouler. Là, on se retrouve avec des politiques qui sont face à des responsabilités et qui envoient des signaux qui perturbent l'électorat, dont une partie de l'électorat de gauche. En face, qu'est-ce que vous avez ? Le Front National qui a très bien compris qu'il y avait deux places au deuxième tour, mais Marine Le Pen a reconstruit sa petite entreprise. Elle fait un très bon travail de DRH, hein, parce que tout se termine sur la présidentielle. Dans certains esprits, à droite et à gauche, c'est qui va être en face de Marine Le Pen au deuxième tour. Et ils anticipent déjà sur le résultat des européennes, dont on a vu dans les sondages du 20, 22, 23. On se rappelle que Chirac a été élu, il n'a jamais dépassé 20. Donc à la date d'aujourd'hui, on reste dans le bipartisme, mais ils sont trois autour de ces deux chaises. Et à la date d'aujourd'hui, le vrai problème de fond, c'est que le PS... Hollande a pris les commandes, mais après une vacance de deux poids lourds qui étaient DSK et Martine Aubry, qu'à droite, le moins qu'on puisse dire, c'est contre la fraude électorale, les guerres de personnes. Vous avez deux stratégies différentes, vous l'avez vu.
Enfin, après les vacances de DSK et Martine Aubry, vacances de DSK certes, mais Martine Aubry, il l'a battue lors des primaires. Hein. Elle n'était pas éliminée d'office.
Elle n'était pas éliminée d'office, mais le Parti Socialiste était totalement renversé par rapport à cet élément de confort qui était l'arrivée de DSK. À droite, vous avez quelque chose que vous avez vu, c'est-à-dire Juppé soutenant à Bayrou, alors que de l'autre côté, vous aviez Copé qui tapait comme fortement sur la position de Pau, parce qu'il voit très bien qu'il y a une alliance de la droite et du centre qui va le mettre en position délicate. Mais toujours en arrière-pensée, le Front National est très haut, il redescendra quand l'économie redémarrera, on n'en est pas le cas. Ça va vite en France. On est quasiment au middle term. Au mois de novembre, c'est la moitié du quinquennat. La moitié pour le président et pour les députés. Donc là, dès qu'on va finir les européennes, qui sont entre guillemets un sujet qui intéresse personne, parce qu'on va passer ça par-dessous le tapis en disant le taux d'abstention sera majoritaire, etc. etc. On aura les sénatoriales au mois de septembre. C'est déjà plié. Mais entre septembre et le vote du budget, c'est clair qu'on rentre dans la pré-présidentielle.
Juste quand vous dites que c'est déjà plié, pour vous, le Sénat, c'est clair, va repasser à droite, il n'y a pas photo ?
Le rapport, les propositions de Jospin étaient de diminuer la place des maires. Il n'a pas été suivi, 95% ou 93%. À la date d'aujourd'hui, comme dirait quelqu'un, je suis Monsieur Bell et je suis président sortant. Je ne me représente pas et je prends les tickets pour aller voyager autour du monde.
Marika, Mathieu.
Oui, en tout cas, pour rebondir sur ne serait-ce que sur cette prochaine échéance que seront les européennes, oui, il faudra quand même s'interroger sur le pourquoi du comment il y aura cette abstention, pourquoi il n'y aura pas de campagne, pourquoi rien ne sera justement tranché là-dessus. Quand on s'interroge...
On ne sait pas encore, si
oui. C'est quasiment fait. Oui, c'est dans un mois et demi.
C'est dans un mois et demi, on voit qu'il n'y aura pas de grand discours et de grande prise de position là-dessus. Et d'ailleurs, pourquoi, en tout cas, ne serait-ce que pour au niveau de la droite, parce que toutes les conversations et tous les rassemblements qui ont voulu être faits sur une ligne européenne n'ont pas abouti et ont provoqué au contraire des menaces de dissidence, on l'avait vu au niveau de la droite populaire. Après, même au niveau de l'abstention, l'abstention, encore une fois, devrait se lire entre les scrutins en amont et pas simplement comme quelque chose qui ne veut rien dire à un moment donné. Il y a une expression parce qu'elle touche sociologiquement. Les vrais bastions sont maintenant dans cette abstention qui d'ailleurs n'est pas figée dans le marbre, elle est intermittente et elle doit pouvoir se lire pour comprendre ce qui est en train de se passer, notamment à gauche. Et juste, l'Europe, on dit on s'en fiche, etc. À un moment donné, regardez le nombre d'occurrences dans un discours de Marine Le Pen du mot Europe et voyons effectivement si ça n'a pas trait à la dépolitisation des grandes forces politiques qui ne sont grandes que partiellement puisque 23% à peu près des Français s'en sentent proches, que ce soit du PS ou de l'UMP d'une part, c'est un échec au niveau de la représentativité.
À propos de l'Europe, il paraît que Jean-François Copé, dans ses meetings, teste actuellement un slogan, alors qu'il devrait être déterminé, je crois, dans les prochains jours, mais cette formule, c'est « l'Europe, je l'aime tellement que j'en veux une autre », ce qui paraît quelque chose de pas très performatif, quand même. Hein,
c'est l'art de marcher sur les eaux.
Marcel Foucault, ensuite, une question de Frédéric.
Oui, très brièvement. la question du bipartisme ou tripartisme, je crois que l'erreur à ne pas commettre serait de lire le prochain scrutin européen, mode de scrutin, j'insiste, proportionnel, et de dire le Front National réalise un score élevé, puisque c'est une élection où il réalise en général, il atteint un niveau assez important, et de dire, ben voilà, on a une confirmation d'un nouveau système tripartite. Non, enfin, les institutions de la Ve République sont des institutions avec un mode de scrutin majoritaire à deux tours. Et ce mode de scrutin majoritaire à deux tours, comme je disais tout à l'heure, du Verger, c'est deux partis. Et donc, sauf à changer les règles institutionnelles, je ne crois pas une seconde à ce nouveau paysage des familles politiques décomposées, puisque c'est le titre de l'émission. Non, on va garder sur une vraie composition telle que les pères fondateurs de la Ve ont construit ce système politique français.
Bon, grâce à vous, les ventes d'Emmanuel de Maurice Duverger vont être relancées. Frédéric Thézot.
Oui, l'histoire de l'atonie à venir de la campagne européenne, de la pauvreté du débat, nous rapporte au débat du début de l'émission sur la ligne politique à droite. Pourquoi la droite n'a pas de ligne politique? C'est parce qu'en réalité, elle n'a pas de ligne sur l'Europe. On est quand même désormais dans le cœur du réacteur. La droite n'arrive pas, l'UMP n'arrive pas à avoir de discours européen réellement cohérent. C'est le même parti qui fait cohabiter les souverainistes et les ultra-fédéralistes. Mais si on cherche un peu plus loin, le PS n'est pas vraiment au clair. On se souvient qu'après le non au référendum, François Hollande qui avait défendu Louis, nomme comme secrétaire national chargé de l'Europe Benoît Hamon qui avait voté non. Après, il y a eu ce miracle de l'élection de François Hollande qui fait que l'exercice du pouvoir permet de mettre sous le tapis parce qu'on est dans l'action et pas dans la théorie, mais ni à l'UMP ni au PS, il y a une doctrine claire sur l'Europe, bah forcément, ça nous prépare un débat européen extrêmement pauvre.
L'exemple des partis, la façon dont ils fonctionnent est tout à fait clair, et vous avez tout à fait raison. L'Europe va permettre de donner, entre guillemets, à des postes à des gens qui sont, entre guillemets, en recherche de position. Vous avez vu à l'UMP...
les recalés du suffrage universel.
Une ancienne ministre qui va être dans l'Est... qui était particulièrement doué pour l'expression orale. Vous avez vu le bras droit de Jean-François Copé, qui est totalement inconnu, barbu, qu'on a connu au moment des fraudes électorales, qui va être tête de liste. Le vrai problème, c'est que dedans, et au Parti Socialiste, c'est pas mieux. Hein. J'ai entendu quelque chose d'une ministre de la Culture ce matin qui m'a un petit peu interpellé. On est sur quelque chose qui est une voie de garage. Regardez les taux de présence, les nominations, l'échec de Barnier il n'y a pas très longtemps, quelles que soient les qualités de Barnier, la France en Europe est en position de faiblesse. Et Deuxio, tout le monde s'attend à une grosse coalition, parce qu'effectivement, en France, on aura le problème du FM. En Angleterre, on a déjà le problème de l'UKIP. Et que dans les pays à côté, en Belgique, on a déjà l'extrême droite qui a fait des percées et qui va reprendre des sièges. Et que dans les autres pays, on aura aussi des poussées. Ce qui veut dire que les sociodémocrates d'un côté, les conservateurs de l'autre sont partis pour former une grosse majorité.
Comme à Berlin.
Parce que le vrai problème, il n'y en a qu'un en Europe, c'est que l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui fonctionne mal.
Il va y avoir une sorte de consensus mou entre la gauche et la droite à la faveur de cette campagne des européennes, selon vous, Martial Foucault. Des sujets comme par exemple le traité de libre-échange Europe-États-Unis, ça ne peut pas être un élément clivant comme le fut en son temps le traité constitutionnel ?
Je crois que là où la droite et la gauche, je mets le centre de côté, mais là où les partis de droite et de gauche vont se rassembler de nouveau lors de cette campagne européenne, c'est de dire finalement tous les maux qui frappent la France, c'est dû à l'Europe. Donc ça c'est une constante, à quelques circonvolutions près des uns et des autres, mais globalement on est en temps de crise et c'est très facile de dire finalement tout ce qui nous arrive de mauvais nous vient de Bruxelles. Et
c'est intéressant d'ailleurs d'écouter hier soir Marielle de Sarnez, voilà, qui est la numéro 2 du Modem, qui expliquait justement qu'il ne fallait pas tout mettre sur le dos de l'Europe, parce que ça commençait déjà dans le débat télévisé à, vous voyez bien que voilà, les politiques
avec,
essayaient de...
Vous avez avec elle une des rares européennes convaincues et qui est présente et qui siège. Si vous regardez la liste de présence, vous tombez de la chaise.
Hein. Et finalement, tout ça pour dire que ça contribue quand même à vider du contenu le sens d'une campagne européenne lorsque les partis tapent aussi fort sur Bruxelles.
Je me tourne une toute dernière fois vers vous, Frédéric Mettezo, puisque vous avez gardé l'œil collé sur les dépêches AFP. Manuel Valls est-il ou pas Premier ministre? Pour l'instant, non, apparemment, il n'y a toujours rien d'officiel.
Toujours rien d'officiel, mais allez, on va dévoiler quelques sources. Un proche de François Hollande me dit en termes extrêmement élégants « Je pense que le choix du Premier ministre cristallise bien cordialement. »
C'est qui ce proche
Ça, vous connaissez, secret des sources, comme on dit sur France Culture.
Merci beaucoup, en tout cas, à tous les quatre. Allez, patientons encore une petite heure pour en savoir davantage. Merci, en tout cas, à Martial Foucault, Patrick Lafarge, Marika Mathieu. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La droite forte, année zéro. C'était aux éditions La Martinière en 2013. On vous retrouve bientôt. Frédéric, mettez vos commentaires, la réécoute, les podcasts, c'est sur notre site. Demain, la crise ukrainienne remet-elle en cause la dénucléarisation du monde? C'est la question que nous poserons.